Louer et remercier soit le Seigneur. Quand nous chantons « Je prie pour une nouvelle expérience », ça sous-entend que nous avons déjà eu une expérience avec Dieu. Et nous croyons que dans ces jours, nouvellement, nous aurons des expériences avec Dieu. Nous sommes venus avec de grandes attentes. Et vous pouvez croire, que je sais estimer et avec moi les frères ici en cet endroit et nous tous, ce que cela signifie d'entreprendre une longue distance pour venir sur le coup de la parole de Dieu. D'un autre côté, nous savons exactement que vous ne mettez pas votre confiance en nous. Ce n'est pas en nous que vous vous confiez, que vous vous êtes confié, mais c'est au Seigneur, dans le Seigneur, que vous avez mis votre confiance. Et il n'a encore jamais déçu quelqu'un. Il n'a laissé jamais quelqu'un repartir vide. Chacun qui vint à lui a toujours été béni. Chacun a toujours été béni et a toujours reçu encore selon ses requêtes, ses besoins. Et la même chose aussi est valable pour ces réunions. Maintenant, cette pensée m'est venue dans ces derniers jours que nous n'avons qu'à faire qu'à des réalités divines, des faits divins, des réalités divines. Nos yeux spirituels voient ce que Dieu a dit comme étant déjà existant. C'est déjà là, ça existe déjà. C'était comme ça avec Abraham, c'était comme ça. Et c'est comme ça avec toute la postérité, la semence, la descendance d'Abraham. Nous ne bâtissons pas sur des sensations, sur ce que nous ressentons, mais sur la parole de la promesse que Dieu a donnée. Et ces promesses, ou bien alors, ces promesses au pluriel, il les accomplira. Nous, parfois, nous retirons nos paroles, nous changeons de pensée, nous réfléchissons autrement, mais Dieu ne peut rien reprendre de ce qu'il a dit et jamais il change ses pensées. Toutes ces paroles sont parfaites. Et c'est peut-être raison que nous mettons notre confiance entièrement, totalement en lui. J'ai déjà dit, Seigneur, je vais totalement vide à la réunion. Mais je sais que tu as préparé toute ta plénitude pour nous. Et cela aussi va ensemble, très bien. Car si nous sommes vides et que lui, il a la plénitude, alors cela peut se répandre sur nous et nous sommes bénis et remplis. Nous serons bénis et remplis. Chantons le cantique 541 ensemble. Bientôt le Seigneur vient, alléluia, mais pas en basseur. Le règne est à lui dans toute éternité. Pour toute éternité. Le cantique 541. Dans ces deux dernières strophes du deuxième cantique, nous avons chanté pluie de bénédiction. La pluie de bénédiction est à toi. Accorde-nous le temps du rafraîchissement. Accomplis ta parole. Et pour nous maintenant. Ça, c'est notre prière. Et notre confiance se dirige vers cela. Accomplis ta parole. Pour nous maintenant. Pas nos désirs, pas nos imaginations, mais accomplis la parole qui est ta parole que tu as déterminée pour ce temps. Tes promesses pour les derniers jours, accomplis-les parmi ton peuple. Et nous avons appris à mettre toutes nos propres imaginations à côté, de côté, et entièrement, totalement faire confiance au Seigneur. À un autre endroit, Frère Branham dit, Le mouvement pentecôtiste, dans ce dernier temps, nous a rappelé le commencement, mais maintenant Dieu va plus loin avec ceux qui le croient et lui font confiance. Il va plus loin que ça. Et dans ces jours, nous attendons ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, mais encore plus, encore plus. Nous nous attendons à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, mais encore plus. Et nous savons que Dieu a donné des promesses qui vont au-delà de ce qui était au commencement. La gloire de Dieu, à la fin, sera plus grande. Et nous nous rappelons à cette déclaration que Frère Branham aussi a faite. Le mouvement pentecôtiste nous a fait penser à la bouche, à la langue, à parler dans différentes langues. Et ensuite, il dit, maintenant, nous avons grandi, nous sommes allés dans la croissance au-delà de ça, au-dessus de ça. Maintenant, nous sommes au niveau des yeux, au sommet qui peut être atteint le plus haut. En fait, au point par lequel tout est réellement dirigé, déterminé et soumis. La bouche a eu son temps. Beaucoup ont dit beaucoup de choses dans différentes langues sous le ciel, qui existent sous le ciel. Mais maintenant, Dieu parle dans sa langue par la révélation divine, prophétique. Le voyant, les voyants, vous savez, dans l'Ancien Testament, les prophètes ont été appelés des voyants. Ont été appelés voyants parce qu'ils voyaient des visions. Ils recevaient des visions divines. Ils voyaient des événements, des choses qui devaient arriver dans le futur. Et nous devons nous habituer à ce que nous n'attendons pas à une répétition de ce qui s'est passé dans le mouvement pentecôtiste depuis 1906 et qui a continué. Mais nous vivons maintenant dans l'âge de la croissance spirituelle, sans laisser l'autre, bien sûr. Mais le poids principal, l'importance principale, nous la mettons sur ce que Dieu a déterminé pour ce temps. Maintenant, j'insiste, nous n'avons pas le droit de rien laisser. Mais nous ne voulons pas non plus rester à ce que Dieu a fait d'un mouvement pentecôtiste. Mais nous voulons pas pour pas aller de l'avant, grandir, aller plus loin que ça, être revêtu de la puissance d'en haut avec toutes les armures de notre Dieu. Et dans ces jours, il nous les accordera. Et jusqu'à la fin, dans le dernier strophe du cantique, il est dit, ouvre la porte au fleuve. Maintenant, où nous nous soumettons devant toi, nous agenouillons devant toi, nous nous prosternons devant toi, maintenant où nous t'invoquons. Nous avons besoin de la pluie de l'arrière-saison, ça nous le savons tous. Vu tristement, nous nous réjouissons de la pluie et de son rafraîchissement, même quand parfois nous sommes mouillés. Mais en fait, nous savons que la pluie est nécessaire pour que nous ayons à manger. Et c'est ainsi que spirituellement, nous devrions être aussi reconnaissants de ce que Dieu accorde la pluie de bénédiction et que richement nous avons à manger. Je voudrais seulement lire un verset qui est connu de tous, plus que connu, que tous connaissent par cœur. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Hébreux, chapitre 13, verset 8. J'aimerais le lire avant la prière. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et éternellement. Levons-nous pour la prière. Nous voulons tous ouvrir nos bouches, tous prier ensemble. Père céleste, avec des cœurs courbés et un esprit humble, nous venons dans ta présence. Sous le couvercle de l'aspersion du sang de l'agneau, nous venons devant ton trône de la grâce et te demandons que tu puisses descendre parmi nous, Dieu fidèle, que tu puisses ôter tous les obstacles du chemin, ôter l'incrédulité, chaque doute et petite foi. Seigneur, qu'aujourd'hui, par ta parole et par ton esprit, la foi vivante vienne dans notre cœur. La foi qui détend ton bras, la foi qui en tant que une réalité divine prouve des résultats, montre des résultats. Bien-aimé Seigneur, nous sommes ici rassemblés devant ta face et te remercions pour ta parole puissante. Tu nous as conservés dans ta grâce. Tu nous as révélé ta parole et ta volonté. Qui sommes-nous de ce que un tel grand Dieu se soit révélé à nous, nous ait visité et parlé avec nous. Seigneur, que tu puisses rendre ta parole si fraîche, si vivante, si puissante. Aujourd'hui, dans cette heure, que elle soit l'épée de l'esprit pour nous. Seigneur, que ton esprit agisse parmi nous et que tout esprit soit banni de cette salle au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Seigneur, ton peuple est libre. C'est une année de grâce, une année de jubilé, une année de rédemption, de délivrance. Nous te remercions pour cela. Et cette année va s'achever avec ton retour. Ce n'est pas une année de 365 jours, mais le temps de la grâce qui maintenant va vers sa fin. Seigneur, nous pensons aussi à tous ceux qui ne pouvaient pas venir, qui aujourd'hui ne sont pas ici. Oh Dieu, apprends-nous à prier, apprends-nous à croire, et je revendique ton peuple. Je revendique et ils viendront tous pour écouter ta parole. Seigneur, glorifie-toi, toi-même, glorifie ton nom et accorde nos cœurs à ta parole, ô Dieu, et bénis-nous tous de la plénitude de ta grâce. Nous te le demandons dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous nous asseyons. Ça, ce sont les jours que nous avons attendus. Et nous croyons que Dieu confirmera sa parole, accomplira sa parole, et qu'il veut le faire, l'accomplir. Et nous devrions mettre de côté toutes nos imaginations, propres imaginations, et entièrement faire confiance au Seigneur. Alors qu'autrefois, il disait à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils n'avaient rien besoin de faire d'autre que ce qu'il leur avait dit. Et déjà ici est contenue toute la bénédiction et avec cela aussi l'accomplissement des promesses est lié. Ce qu'il vous dit, c'est ce que vous devez faire. Ça, c'est la clé qui, n'est-ce pas, se fait voir par toutes les exposés de l'Évangile. Ce qu'il vous dit, faites-le. Et ce qu'il dit, cela aussi se passe. Cela a lieu alors qu'il était monté dans la barque ou bien alors qu'il avait craché sur la terre et fait une patte et mis ça sur les yeux de l'aveugle. Les critiqueurs auraient pu dire toutes sortes de choses. Mais le Seigneur a dit, va, lave-toi à l'eau de Siloa et tu pourras voir. Et cela a eu lieu. L'aveugle a pu voir. Il est allé, il a fait ce que le Seigneur lui disait de faire. Et si nous faisons ce que le Seigneur nous dit de faire, alors là, à ce moment-là, il prend la responsabilité pour ce qu'il a dit. Mais si nous ne faisons pas ce qu'il a dit, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qui... Donc, nous en sommes responsables si rien ne se passe. Donc, nous voulons retenir cette phrase biblique au-dessus de toute cette réunion. Faites ce qu'il vous dit. Ce qu'il vous dit, faites-le. Pas autre chose. Il a dit beaucoup de choses, mais pour ces jours dans lesquels nous nous rappelons à ce qui s'est passé, il a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Personne savait comment et qu'est-ce qui allait arriver. Ils ont peut-être même pas compris, ça aurait été même possible qu'ils n'auraient même pas compris ce qui avait été promis dans cette parole. Mais ils ont fait ce que le Seigneur leur disait. Ils sont venus d'un commun accord à la prière. Et là où nous faisons ce qu'il nous ordonne, lui, il pourra aussi faire ce qu'il nous a promis. C'est ainsi que c'est simple. C'est si simple que ça. Et malgré tout, parfois un peu difficile. Autrefois, ils avaient vu leurs yeux, le Seigneur avec leurs yeux naturels, il avait entendu et pouvait exactement mettre en pratique ce qu'il leur disait. De la même manière, cela doit maintenant se répéter. Il nous a parlé clairement et assez compréhensible. La parole qui avait été adressée autrefois à son peuple est la même parole qui est adressée à nous aujourd'hui en tant que son peuple. Aujourd'hui, il dirait ce qu'il a dit autrefois et autrefois, il a dit ce qu'il dirait aujourd'hui. Avec lui, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. D'homme de changement, il reste éternellement le même. Et nous attendons dans ces jours à être rapprochés de Dieu, à ce qu'il puisse nous bénir plus que jusqu'à maintenant et que nous puissions devenir une partie de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte dans l'Église primitive. Que nous puissions revivre la même chose. Nous croyons que complètement à la fin, encore de plus grandes choses auront lieu. Mais déjà maintenant, de grandes choses peuvent avoir lieu. Nous voulons mettre nos propres imaginations de côté. Et malgré tout, nous voulons que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit. Et que ce soit des réunions dans lesquelles nous n'écoutons pas seulement la parole de Dieu, mais dans laquelle nous expérimentons l'effet de la puissance de Dieu qui est contenu dans sa parole. Sa parole, ça nous l'avons souvent dit, contient sa puissance et elle ne revient jamais sans effet. Elle produit et exécute ses volontés et produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Nous sommes aujourd'hui ici et j'aurais préféré ne même pas parler, mais dire nous voulons prier. Mais ça aussi, il faut que cela nous soit accordé par Dieu. Il faut qu'il y ait une envie du cœur, et pas seulement avec nos lèvres, mais avec notre cœur, que nous puissions invoquer Dieu, ouvrir notre bouche et nous adresser à Dieu, et crier à Dieu. Et ce sont de telles promesses. Ce sont les promesses sont pour de telles personnes. Avant même qu'ils ouvrent la bouche, je répondrai. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà vu le désir de leur cœur et que leur désir est sincère. Avant même qu'on les exprimerait de notre bouche et qu'on les ait prononcés, le Seigneur déjà voit notre cœur et il répond avant même qu'on ait ouvert la bouche. Notre Seigneur Dieu est quelqu'un qui connaît notre cœur et il veut baptiser d'esprit et de feu. Il le veut. Ça, ce n'est rien qui serait en dehors de sa possibilité. Mais cela fait partie de ce qu'il veut faire. Le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Et là où l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre, et là, on ne peut pas dire que là, il y a le royaume de Dieu. On peut parler, on peut chanter concernant le royaume de Dieu et parler du royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu est seulement là où Dieu peut se manifester. Alors qu'il devint chair en Jésus-Christ notre Seigneur, il est écrit que le royaume de Dieu est proche. Mais maintenant, il est à nous. Pas seulement proche. Nous sommes dans le royaume de Dieu et le royaume de Dieu est à nous. Nous sommes en Christ et Christ est à nous. Nous sommes dans la parole de Dieu et la parole de Dieu est à nous. C'est toujours ce changement d'effet dont nous avons besoin pour garder le pas dans notre vie de croyant. Seulement comme ça, nous pourrons, n'est-ce pas, sortir de la théorie et passer vraiment à la pratique et à la réalité. Et je l'ai dit déjà au commencement, cette pensée m'occupe beaucoup que avec Dieu, tout, pour Dieu, tout est déjà une réalité achevée. Chaque promesse qui sont écrites dans la parole de Dieu, pour Dieu, c'est une chose close. C'est déjà, à ses yeux, achevé, accompli. Même si nous attendons encore leurs accomplissements. Mais pour Dieu, tout est déjà accompli, est déjà fait. Mais il veut que dans les croyants, cela soit réalisé. Maintenant, revenons à notre situation. Dieu est une réalité. Sa parole est une réalité. Sa naissance, sa vie, ses souffrances, sa mort, son ensevelissement, sa montée au ciel, sa résurrection, tout est une réalité divine. Alors quoi? qu'est-ce qui se passe avec toi et moi? Qu'est-ce que c'est en ce qui nous concerne? Nous aussi, nous sommes une réalité divine. Nous sommes des fils et des fils de Dieu. Nous étions en Christ et nous sommes en Christ et nous serons en lui. Paul, n'est-ce pas, dans Romains 6, l'écrit, « Je suis crucifié avec Christ et je suis enseveli, j'ai été enseveli avec lui pour étant ressuscité avec lui, marchant en nouveauté de vie. » Dans un autre verset, il est écrit que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Ephésiens 2, verset 6. Et si son amour pouvait saisir son peuple, est-ce que nous comprenons cela? Que notre Seigneur soit une réalité, ça nous le croyons tous. Mais de la même manière, tel que lui, il fut né par l'Esprit, engendré par l'Esprit et naquit dans ce monde, né dans ce monde. C'est ainsi que nous aussi, nous sommes engendrés par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu et ravis dans le monde dont il est venu. Lui, il est devenu mortel pour que nous puissions devenir immortels. Mais bien aimé, ça nous devons, dans la foi, le saisir. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a pris notre place. Et ça ceci aussi, c'était une réalité. Tous nos péchés sont tombés sur lui. Un homme de douleur. Méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Non, on se détourne nos regards. C'est ainsi qu'il fut frappé par les maladies, par la douleur que l'humanité lui a commise. D'une manière que il a perdu son éclat, son aspect. D'une manière que les gens l'ont évité, ne pouvaient même pas regarder à lui. Se sont détournés, dont on se détourne le visage. Mais c'était une réalité. Il était la vie. Il a porté tout. Oui, la mort et quoi que ce soit qu'il a porté. Mais ça peut pas être pour toujours une réalité. Car tout ce qui a un commencement, même la mort, aura une fin. Donc, la mort n'existera plus. Mais bien aimé, nous devons commencer à faire la différence entre la réalité et le mensonge. Tout ce qui vient du diable est un mensonge et il est le menteur depuis le commencement. Tout ce qui vient de Dieu est véridique, est véritable et nous sommes nés de Dieu et c'est peut-être raison que nous sommes liés à la véracité avec Dieu par sa parole et par son esprit. Ça, c'est une réalité. Est-ce que nous l'avons déjà ressenti? Je le crois en partie déjà, mais pas peut-être pas assez saisi fortement, totalement par l'incrédulité, par le doute. Cette vue claire, toujours de nouveau, a été obscure. Si, et je pense que Dieu veut accorder sa grâce pour que cette vue claire pour les réalités divines ne soient plus obscurcies, mais que de clarté en clarté et de connaissance en connaissance nous puissions passer, aller et être transformés à son image totalement, comme cela a lieu par le Seigneur qui est l'Esprit de Corinthiens 5 et 3, pardon, verset 18. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté divine. Le premier verset biblique que notre Seigneur a lu était d'Ésaïe 61. L'Esprit de Dieu, de l'Éternel, du Seigneur est sur moi, se repose sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Mais bien-aimé, si l'Esprit du Seigneur en tant qu'une réalité divine se repose sur l'Église et sur l'Église, alors il faut que aux captifs la délivrance soit proclamée. Et ils doivent instrumenter leur délivrance sous le coup de la parole de Dieu. Pas seulement une proclamation de la délivrance, mais l'expérience. Les gens doivent être saisis des réalités divines sous la prédication de la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Nous devons aussi comprendre que la parole de Dieu est une réalité. Et encore plus que ça, c'est aussi une autorité divine. Il est écrit, le Seigneur a chassé les démons par sa parole. Il a parlé et cela a eu lieu. Ce qu'il disait existait. Le diable ou bien les démons, devant ta parole et mes paroles et ma parole, ne vont pas sortir, ne vont pas avoir peur, ne vont pas trembler, ne vont pas obéir. Mais devant l'autorité de la parole de Dieu, ils ont à se soumettre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est une réalité divine. Et vous savez pourquoi? Pas une théorie, mais une réalité, une pratique divine. Jésus-Christ a vaincu la mort et le séjour des morts. Il a ôté à Satan les clés. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et il a dit, je vis et vous devez aussi vivre. Et vous vivrez aussi. Et vous vivrez aussi. Nous voulons maintenant, dès maintenant, croire que nous avons qu'à faire qu'à des réalités divines. Qu'à ça, rien d'autre. Nous nous occupons à rien d'autre que des réalités divines. Et les réalités divines, c'est que tous les pécheurs qui viennent à Jésus-Christ et qui croient en lui en tant que leur sauveur personnel reçoivent le pardon de toutes leurs fautes et péchés. Cela leur est promis, et pas seulement ça, mais leur a été aussi accordé déjà par la grâce de Dieu. La promesse était jusqu'à Christ. Mais depuis Christ, les promesses du pardon des péchés sont devenues une réalité. Parce que Christ est Dieu manifesté en forme humaine, était. Christ est une réalité divine. Et tout ce qui était promis en lui est devenu une réalité. D'abord, celui qui veut voir Dieu, il doit regarder bien au Seigneur. Et cela aura lieu pour lui comme ce qui s'est passé avec Thomas alors qu'il voyait le Seigneur et qu'il le touchait. Il a pu que dire, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Une réalité divine en forme humaine. Dans cette marchant ici dans ce monde, sur cette terre, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des réalités divines, des enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le message de joie. Et la chose merveilleuse en cela, c'est que ce message est vrai. Et qu'il est vrai. Si c'est seulement une musique au futur, pour le futur, alors je ne me tiendrai pas ici aujourd'hui, dans cette certitude, cette assurance. Et Paul a écrit aux Corinthiens, et il dit que si Christ n'est pas ressuscité des morts, alors notre prédication est vaine. Mais puisque Christ est réellement ressuscité des morts, et ça, je peux avec le droit de Dieu ajouter, c'est pour cette raison que notre prédication est pleine de la puissance de la résurrection. Ce ne sont pas des paroles vides, c'est un sépulcre vide, c'est vrai. Alléluia! Et ça, nous devons comprendre. Et si nous avons compris cela, alors ta tombe et ma tombe est aussi vide, déjà. Car bientôt, nous serons près de lui pour toujours. Il est monté pour nous préparer une place. N'oubliez pas cela. Ici, nous n'avons qu'à faire qu'à une réalité divine dans la parole de Dieu. Le sépulcre, la tombe dans laquelle le ressuscité était allongé est vide. Mais la parole de la croix est pleine. Et c'est une puissance de Dieu. À tous ceux, en tous ceux qui croient à la parole de la croix. Et mes bien-aimés, si dans ces jours, avec l'aide de Dieu, nous réussissons à cela et que lui avec nous, à atteindre, à briser ce mur du son, ce mur du son, et subitement nous réveiller et comprendre qui nous sommes en fait. Selon la chair, nous avons, selon la chair, beaucoup ont connu le Seigneur et ont dit, oui, mais nous connaissons ses frères et nous connaissons ses sœurs. N'est-il pas le fils du menuisier, etc., du charpentier? Selon la chair, beaucoup le connaissent, tous le connaissent. Mais Paul dit dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et même si nous avons connu Christ selon la chair, si nous l'aurions connu selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Qu'est-ce qui s'était passé? Il était venu dans la chair pour souffrir et pouvoir mourir et souffrir pour ôter la puissance de la mort, l'aiguillon de la mort, l'a blessé le talon, mais son pied est tombé et a écrasé la tête du serpent. Depuis Genèse 3, verset 15, c'était une promesse pour le futur. Mais depuis Golgotha, cela est devenu une réalité divine. Et ça, nous devons le comprendre. Et alors, nous sommes secourus. C'est un fait divin. Dès maintenant, nous voulons, avec l'aide de Dieu, nous occuper nos pensées qu'aux réalités divines. Occuper nos pensées qu'aux réalités divines. Et alors, nous allons arrêter de regarder à notre propre état, à nos symptômes, et aussi, non plus, nous allons arrêter de regarder aux autres. Nous allons faire que regarder au Seigneur, à celui dont vient notre secours, au Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui ressuscite les morts, et qui fait voir les aveugles et marcher les paralytiques. Notre Seigneur veut nous utiliser pour cela en tant que petite réalité ici de sa sainte et précieuse parole, pour que sa sainte et précieuse parole soit mise en pratique. Et nous pourrons dire comme notre Seigneur l'a fait. Ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais mon Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. C'est ainsi que ce sera aussi avec nous tous. Imaginons-vous que les morts, ou bien que plusieurs aussi ressusciteront devant toi, alors ça aurait été personne de nous qui aurait pu ressusciter un mort. Mais notre Seigneur, il est le Seigneur au-dessus de la vie et de la mort. Autrefois, il a dit, je suis la résurrection et la vie. de la résurrection. Déjà, d'autres ont prophétisé là-dessus que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais il est un Dieu des vivants. Et Job dit, je sais que mon Rédempteur vit. Et après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu comme mon salut. Je le verrai. Ces hommes portaient la parole de Dieu en tant qu'une réalité divine dans leur cœur. Et ils étaient des petites réalités divines ici sur cette terre. Est-ce que vous comprenez cela ce soir? Malgré leurs problèmes, les prophètes de Dieu, les hommes de Dieu, étaient des petites réalités divines ici sur cette terre. La parole brûlait dans leur cœur, dans leur âme, par l'esprit. La parole avait été placée en eux. Oh, nous, comment est-ce qu'ils ont aspiré à voir l'accomplissement de ce qu'ils avaient cru et prophétisé et annoncé à l'avance et se sont endormis sans le voir. Mais nous vivons à la fin du temps de la grâce dans lequel Dieu rétablit tout ce qui s'était perdu et encore plus. Il est plus que capable de faire au-delà de ce que nous pourrons demander et penser. Dans un tel temps, nous vivons maintenant. C'est une réalité que Dieu a révélé sa parole. Et il faut que cela ait eu lieu pour un objectif bien précis. La parole de Dieu, ce que Dieu a dit, ce que Dieu dit est toujours en relation avec son peuple et pour son peuple. Et avec cela est lié aussi un objectif, un but. Et nous croyons que Dieu, c'est les hommes avec qui il a établi une alliance. Donc, ceux qui appartiennent à son peuple de la Nouvelle Alliance, que tous, ils croient et écoutent maintenant la parole de l'Alliance, les paroles de l'Alliance, et de tout leur cœur les croient. Beaucoup qui, durant les siècles, étaient des prophéties, déjà aujourd'hui sont devenus, n'est-ce pas, l'histoire, devenus une réalité, sont une partie de l'histoire. Et sont dans le royaume de Dieu, une réalité divine parmi son peuple. Nous pouvons parler beaucoup de ces choses que le peuple d'Israël était une réalité divine qu'on ne peut pas renier et nous nous réjouissons de cela. Mais cela n'est pas ta réponse et ma réponse aujourd'hui. Quelle était la réponse? Ça, c'est la réponse pour Israël autrefois, mais ta réponse et ma réponse doit être aujourd'hui en relation avec les promesses de Dieu pour l'Église aujourd'hui. Et nous n'allons pas plutôt être satisfaits jusqu'à que nous ayons expérimenté personnellement les dernières promesses qui ont été accordées à l'Église et que nous les voyons accomplies. Dieu a donné des promesses. Il a dit qu'à la fin des jours, il enverra un prophète. Est-ce que cela est une réalité? Absolument. Dieu a promis de faire sortir son peuple de Babylone. Est-ce que cela a eu lieu? Dieu a promis d'enseigner et de rétablir toutes choses. Et ici, nous venons maintenant à ce point dans lequel tous nous ne pouvons plus nous en détourner ou bien éviter, car l'un est lié à l'autre. Tout est déjà devenu une réalité. Maintenant, il faut que dans l'Église et par l'Église, cela devienne aussi une réalité divine. Et là, notre foi est exigée. est demandé à tel point pouvons-nous faire confiance à notre Dieu? À quel point notre foi va? Jusqu'à où est-ce que notre foi va? Où est-ce qu'elle arrête? Où est-ce qu'elle cesse? Où est-ce qu'elle reste? Qu'elle stagne? Que nous puissions être ancrés dans la parole de Dieu et qu'il n'y ait plus d'interruption et qu'il n'y ait pas d'arrêt. Que notre foi ne connaisse pas d'arrêt et qu'une étape l'une après l'autre soit déjà vue et dans la foi ferme, nous marchons avec notre Dieu, avec le Dieu vivant, avec sa parole ancrée dans nos âmes, avec le Seigneur. Liés, nous passons de clarté en clarté et de connaissance en connaissance. Mais maintenant, nous voulons voir que l'Esprit de Dieu, du Seigneur, se repose sur l'Église, tel qu'il s'est reposé sur la tête de l'Église, le chef de l'Église. C'est ainsi que l'Esprit doit se reposer sur le corps. Les deux vont ensemble et forment l'union divine. Père, toi en moi et moi en eux, pour qu'ils soient un. L'Église est une réalité divine ici sur cette terre. Jean, sur l'île de Patmos, a, n'est-ce pas, vu le Seigneur en tant que le ressuscité marchant parmi les sept chandeliers d'or. Où étaient ces sept chandeliers d'or? Est-ce qu'ils étaient au ciel? Où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient sur cette terre, des églises locales sur cette terre. Et le Seigneur marchait au milieu des sept chandeliers d'or. Merveilleux. Une réalité divine. Qui est la réalité divine dans l'église? Toi et moi? En première partie, non. En première place, non. Non, en deuxième partie peut-être. Mais Christ, Christ le Seigneur lui-même, en tant que la réalité divine, c'est lui qui est dans l'église, la réalité divine, marchant parmi les sept chandeliers d'or. Et c'est par lui qui est la réalité divine qui a été la réalité divine sur terre. C'est par lui que l'Église de Dieu est devenue une réalité divine. Et nous nous éloignons plus de cela. Et nous devons saisir cela dans la foi pour l'honneur de Dieu parce que nous avons été saisis par Christ. Alléluia. Loué et exalté soit notre Dieu. Résumons. Christ, une réalité divine. En forme humaine, ici sur cette terre marchant. Et ensuite, il a payé le prix pour qui? Pour l'Église qui forme son corps et qui doit continuer son ministère. Au plus tard, après sa résurrection, aussi le dernier parmi ses disciples a compris qu'ils avaient affaire à des réalités divines. Qu'ils ont affaire à des réalités divines. Alléluia. Mais bien aimés, si nous sommes ressuscités avec Christ pour marcher en nouveauté de vie, alors nous comprenons que nous avons affaire à des réalités divines. C'est aussi certain que sa vie, que ses souffrances, que sa mort, que sa résurrection, tout sont et demeure et reste des réalités divines. C'est de la même manière. Ainsi, le jour de la Pentecôte est une réalité divine. Et mes bien-aimés, nous voulons nous accorder à cela, nous disposer et dire, Seigneur, fidèle, nous voulons expérimenter la même chose que nos frères et nos sœurs ont expérimenté au commencement, avec toi, maintenant, à la fin. Si, en tant qu'une réalité divine, nous l'avons reconnue et compris que Satan, oui, si nous comprenons que Satan, toute la puissance de l'enfer et de la mort, chaque maladie, chaque péché, tout ce que la transgression et la malédiction ont amené avec elle, a été réglé par Golgotha. Tout cela a été réglé. Le problème, tout cela a été réglé. Car notre malédiction, notre condamnation est tombée sur lui pour que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tout cela est une réalité divine. Le compte de toutes ces choses a été réglé. Pas nous serons guéris, mais par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est une réalité divine que nos péchés ont été expiés et que nos fautes ont été payées et que nos transgressions ont été pardonnées et que nos maladies ont été guéries et que Christ, le Fils de Dieu, est notre Sauveur, notre Rédempteur. Ça, c'est une réalité divine. Accepte-le aujourd'hui dans la foi comme une réalité divine. Et vous allez voir ce qui se passe. Tu vas voir ce qui se passe. Tant que ce sont des hommes qui seulement avec le font avec leur réflexion, rien ne va se passer. Ce n'est pas avec la réflexion qu'on dit, bon, mes péchés sont pardonnés, je suis guéri, non. Mais au moment où la parole de la croix devient une puissance, alors la réalité divine vient dans ta vie. Et Christ habite par la foi dans notre cœur. Ça, c'est ce que les Écritures disent dans Éphésiens 3, verset 17. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 26 et 27. Et l'Écriture dit que lui qui est en vous, il est plus grand, fort que celui qui est dans le monde. Parfois, moi aussi, je suis découragé. Et je dois à chaque fois nouvellement être attristé et par cela est venu au Seigneur. Je dis, Seigneur, pardonne-moi de ce que par ma petite foi et même parfois par l'incrédulité en face de toi, j'ai agi ainsi. Oh, si tu pouvais croire, tu verrais des miracles et la gloire de Dieu. Tout du côté de Dieu est déjà accompli. Dieu ne peut plus sauver quelqu'un et ne peut plus guérir quelqu'un. Car alors que le Seigneur mourut à Golgotha, tous ceux qui devaient être sauvés ont été sauvés. Et tous ceux qui devaient être guéris ont été guéris. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est déjà accompli et c'est une réalité divine par la croix de Golgotha. Ici, sur cette terre, pour tous ceux qui de tout leur cœur peuvent croire. Vous ne croyez pas un homme. Vous ne croyez pas un homme. C'est à Dieu que c'est Dieu que nous croyons. Et je pense que si nous remettons en question ce que un homme dit, alors on l'attriste. Un homme qu'on ne peut pas croire ce qu'il dit, on ne peut pas entièrement croire ce qu'il raconte. Il est très attristé de cela, de voir qu'il n'est pas pris au sérieux. C'est douloureux parce que ce qu'il dit, on ne peut pas le prendre au sérieux et lui faire confiance. Mais bien aimé, est-ce que nous avons déjà pensé à cela? Comment c'est une douleur à notre Dieu? Combien de fois nous lui avons fait mal de ce que nous n'avons pas toujours cru? Ce qu'il a dit. Ce qu'il vous dit, faites-le. Et c'est en cela qu'était la bénédiction. Lors de la première fois, et essayer aux noces de Cana en Galilée. Ce qu'il donc faites ce qu'il vous dit. Remplissez les cruches d'eau. Et là, le miracle a eu lieu. Mais bien aimé, que le Seigneur, vous savez, est-ce que vous savez que le Seigneur, n'est-ce pas, n'a même pas prié sur l'eau. Il a seulement donné l'ordre. Remplissez remplissez ces vases. Et ensuite, il leur dit, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur. Le miracle a eu lieu en ce que les hommes ont cru sa parole, ont obéi et ont fait ce qu'il a dit, en mettant leurs pensées de côté. Et c'est entre leurs mains que le miracle a eu lieu par Dieu. Même si c'était encore de l'eau, mais au moment où ils ont servi, c'est devenu du vin. Dieu a fait le miracle. Ce qu'il vous dit, faites-le sans réfléchir, sans raisonner. Il a dit, prêchez l'évangile. Nous voulons le faire. Il a dit, guérissez les malades. Ou bien, posez les mains aux malades, ils seront guéris. Et que, nous voulons le faire, pourquoi pas? Pourquoi réfléchir? C'est lui qui l'a dit. Il ne peut pas confirmer sa parole si ce n'est que nous faisons ce qu'il nous dit. Mais s'il avait dit, remplissez les vases d'eau, et que les gens auraient dit, mais nous ne voulons pas de l'eau, nous voulons du vin. C'est le vin qui manque. Ils ont assez d'eau déjà. Seigneur, tu n'as pas bien compris. Il ne leur manque pas d'eau, il leur manque du vin, Seigneur. Ce n'est pas de l'eau, c'est du vin dont ils ont besoin. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Ce qu'il vous dit, faites-le. Et vous allez voir, pendant que nous sommes en train de faire, même quand il a dit, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordinateur. Et c'est là que, avant de goûter l'eau, c'était du vin. Et le miracle a eu lieu. Des miracles n'ont pas lieu là où on parle de ce que le Seigneur a dit. Ou bien avec des longues prières, on veut ébranler le ciel et la terre. Les vrais miracles de Dieu ont lieu là où, au nom du Seigneur, nous faisons ce qu'il nous a dit de faire. Car il ne confirme, ce n'est pas nous qui confirme, il confirme sa parole. Et si nous ordonnons, si nous commandons, nous obéissons à son ordre, alors lui, il confirmera sa parole. Parce que nous faisons ce qu'il a dit. Et là, nous verrons déjà le miracle. Les hommes qui ont versé l'eau dans les vases n'avaient pas de soucis. Ils avaient seulement besoin de faire ce que le Seigneur leur a dit de faire. Qu'ils le comprennent ou pas. Mais c'est lui qui a fait le reste. Et c'est lui qui a répondu aux besoins. Les réalités divines. Jésus-Christ, ici sur cette terre, en forme humaine, était une réalité divine. Depuis lors, le royaume de Dieu est parmi nous. Oui, en nous. Depuis lors, les réalités divines doivent être dans l'Église et continuer à se manifester par l'Église. Et Dieu nous appelle aujourd'hui tous à croire ce qu'il dit, à faire confiance à ce qu'il nous dit et à faire surtout ce qu'il nous dit, ce qu'il nous a dit de faire. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui, et le même dans toute éternité, éternellement. Et cela signifie, dans un langage clair, ce qu'il l'a fait autrefois. Nous pouvons aujourd'hui l'expérimenter avec lui, car il veut le faire aujourd'hui aussi. Ce qu'il a fait autrefois, il veut le faire aujourd'hui. Oh, qu'est-ce qui se passerait si tous, en tant que petite réalité divine, nous pouvions nous voir, qui sont placés dans le royaume de Dieu avec une responsabilité divine et un devoir divin en tant qu'église du Dieu vivant. Alors le Seigneur va pouvoir commencer à agir. Alors nous avons un devoir. Et au moment où un devoir divin nous est donné, nous allons sûrement pouvoir faire la différence, que tout le reste ne compte plus. Nous nous consacrons et nous donnons entièrement à ce grand devoir, à cette grande responsabilité que nous avons devant Dieu, et nous nous plaçons sous cette responsabilité qui nous a été donnée, exécutant ce devoir. Notre Seigneur, le Fils de Dieu, disait, tel que le Père m'a envoyé, est ainsi que je vous envoie. Et pas autrement. Le même envoi divin et la même autorité, le même royaume de Dieu, la même parole de Dieu, des petites réalités. Et pour utiliser cette expression que frère Branham choisissait, il disait, Christ est le oint et nous sommes les oints. Et c'est seulement après cela que nous pouvons nous appeler des chrétiens. Parce que Christ ne veut pas dire que je suis chrétien, mais Christ, être chrétien, pardon, chrétien, ça veut dire d'être loin du Saint-Esprit, d'avoir été loin du Saint-Esprit. Alors, il est chrétien. C'est seulement après cela que l'onction peut nous enseigner toutes choses, considérées dans 1 Jean 2, verset 27. Vous n'avez même pas besoin que quelqu'un vienne vous enseigner. Cela, aujourd'hui, a lieu toujours de nouveau, n'est-ce pas, que des hommes viennent et veulent enseigner. Et ils savent toujours beaucoup plus que ceux qu'ils veulent enseigner. Ils connaissent toujours mieux les choses. Ça, tout ça n'est pas biblique. C'est pas biblique. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne pour vous enseigner. Vous avez l'onction reçue de celui qui est saint et tel que l'onction vous enseigne, demeurez en lui. Car c'est ainsi que c'est juste et correct devant Dieu. Et c'est ainsi que tous, de la même manière, nous serons enseignés par Dieu et de Dieu. Réalité divine. Les réalités divines doivent commencer. Et c'est-à-dire maintenant. Ce soir. Pas demain. Ce soir. Aujourd'hui. Nous devons prendre, reconnaître notre position dans laquelle Dieu nous a placés. Nous sommes, c'est vrai, dans ce monde. Mais dans ce monde, Dieu a son Église. Il a son royaume. Et je vous le dis très ouvertement, le seul devoir que ma vie a, et que ma vie connaît, et le seul contenu de ma vie, et qui forme le contenu de ma vie, c'est les choses du royaume de Dieu. Tout le reste est noté à droite et à gauche, mais le centre, c'est le royaume de Dieu pour moi. Qui veut vivre et voir que l'Église est une réalité divine. Et que les fils et les filles de Dieu soient manifestés. Et que Dieu puisse nous confier plus qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et que nous puissions reconnaître que tout ce qui s'est passé avec Christ s'est passé à cause de nous. Tout. Pour que par lui, nous puissions devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes, alors nous sommes aussi héritiers. Tout ce qui se passe maintenant deviendra une réalité divine et une partie ferme du Dieu vivant. De l'Église du Dieu vivant. Car c'est une église parole, selon la parole de Dieu. Et Dieu confirmait au commencement sa parole. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmant sa parole par les miracles qu'il accompagnait. Est-ce qu'il ne devrait pas le faire avec nous maintenant? Est-ce que nous ne devrions pas prier comme ils l'ont fait au commencement? Seigneur, détends ton bras et que, par le nom de ton serviteur Jésus, des signes, des prodiges et des miracles aient lieu. Dans Acte 4, détends ton bras pour des guérisons, etc. Que nous ne voulons pas compris comme ça. Dieu veut que nous puissions croire comme c'est écrit dans la Bible et penser bibliquement, parler bibliquement, raisonner bibliquement, prier bibliquement, agir bibliquement, marcher bibliquement. C'est ce que Dieu veut. Et si nous arrivons à ce point où même nos entretiens quotidiens sont tenus dans le cadre de la parole de Dieu et que nos pensées sont, peuvent être conservées captives sous l'écoute, sous sa volonté et sa parole, alors l'Église va pouvoir s'élever. Personne ne veut plus faire quelque chose de propre. Non, chacun voudra être conduit par l'Esprit de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, avant de faire quelque chose, pour pouvoir faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Le Seigneur puisse nous accorder sa grâce pour cela, que maintenant nous puissions vivre les réalités divines. Commencer à les voir dans l'Église. Christ, réalité divine. Sa naissance, sa vie, sa souffrance, sa mort. Sa résurrection, sa montée, tout. Il est assis à la droite de sa majesté de Dieu. Tout est une réalité divine. Un fait divin. La mort, vaincue. Réalité divine. Jésus est la preuve. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Mais est-ce que cela a eu lieu pour lui, tout cela, ou bien pour toi et bien pour moi? Tout cela a eu lieu pour toi et pour moi. À cause de toi et à cause de moi. 2 Corinthiens 4, versets 15, 14 et 15. Tout cela est une réalité divine. La parole est devenue chair. Il marchait sur cette terre pour sauver les hommes et se révéler à eux et de faire aussi une réalité divine sur cette terre en tant qu'homme. Et je le dis encore aujourd'hui. Nous sommes une réalité divine en tant qu'Église du Dieu vivant, en tant que le pilier et l'appui de la vérité. Alléluia. Louis et honneur. Soit à notre Dieu, si dans la foi, nous acceptons cela. Et avec notre bouche, nous le confessons. Laissez-moi aussi dire cela clairement. La foi dans ton cœur ne te sert absolument à rien si tu ne peux pas prononcer de ta bouche ce que tu crois dans ton cœur. Si tu ne le prononces pas, c'est seulement quand tu le prononces que cela deviendra ton témoignage personnel. C'est quand tu le prononces de ta bouche que cela devient ton témoignage personnel. Sinon, Satan va toujours t'avoir. Tu pourras t'asseoir ici, sinon tu diras, bon, tout est en ordre, je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau, mes péchés sont pardonnés. Et tu penses à toi-même. Cela est une réalité divine. Tu le penses en toi. Je te dis, si tu ne le prononces pas dans la foi, dans la foi de ton cœur, si tu ne prononces pas de ta bouche, ne confesse pas de ta bouche, tu vas toujours continuer à te tenir dans un combat. Mais si avec ta bouche, tu le confesses et dis, Seigneur, aujourd'hui, une lumière a apparu pour moi. Aujourd'hui, c'est devenu clair pour moi. Ce n'est plus une théorie. C'est une réalité divine. Je te remercie pour les réalités divines dans ma vie. Et je crois que de moi, tu as fait une réalité divine. Je suis un enfant de Dieu. Et vous allez voir ce qui se passe. Sans effort. Pas seulement dire, mais simplement comme ça. Par exemple, mais du désir de votre cœur. Le prononcer dans la foi. Vous allez voir que quelque chose va se déclencher en vous. Et vous allez commencer à louer le Seigneur et à lui rendre grâce. Alors le diable ne pourra que vous saisir de l'extérieur, mais plus de l'intérieur. Il ne pourra plus s'attacher à vous de l'intérieur, toujours de nouveau, s'infiltrer dans vos pensées, dire, oh c'est grave, regarde ce que tu as, c'est grave, tu es malade, regarde. Cela doit cesser. Nous sommes rachetés est racheté, est délivré, est guéri par l'agneau et par le sang de l'agneau. Et laissons lire cela que j'ai lu au début, que je voulais lire au début. Nous avons prié et nous avons demandé au Seigneur de nous conduire par son esprit et nous l'a accordé. Loué et exalté soit son Saint-Nom. Faisons attention à nos pensées. Ézéchiel, chapitre 16. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Mais par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Maintenant arrive le verset. Je passais auprès de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis. Vis dans ton sang, je te dis, vis dans. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? En allemand, c'est alors que je te vis allongé dans ton sang. Je t'ai dit, vis. Qui s'est occupé de nous depuis notre naissance? Mais il y a une chose que je veux vous dire. Quand le Seigneur est passé près de nous et qu'il nous a parlé et qu'il nous a appelés, alors qu'il nous a vus abandonnés, baignés dans notre sang, il a dit, je te dis, je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je t'ai dit, alors que tu étais baigné dans ton sang, tu vivras, vis, vis, pas vis dans ton sang, mais vis. Vous savez ce qui s'est passé? Quand est-ce que ça s'est passé? Alors que le Seigneur, toi et moi, nous a appelés, alors que toi et moi, nous furent nés de nouveau pour une espérance vivante. Nous fûmes nés de nouveau. Qu'est-ce qu'il a? Qui a donné quelque chose pour notre vie? Qu'est-ce qui nous a? Peut-être qu'on nous a donné une place de travail, quelque chose. Mais qui nous a donné quelque chose d'éternel? C'est quand le Seigneur est passé et qu'il nous a aperçus, perdus, sans espérance, sans secours, baignés dans notre sang. Et il a dit, il nous a vus là, allongés dans le sang, dans le champ. Vous pouvez crier, personne ne vous écoute, personne ne peut secourir. Mais là, je vins. Je t'ai aperçu, je suis passé et je t'ai aperçu, baigné dans ton sang. Et j'ai vu comment est-ce que tu tremblais. Personne n'était là pour te secourir. Alors, je vins ici pour te secourir. Le jour du salut, il t'a secouru, toi et moi. Il t'a sauvé, toi et moi, au jour favorable. Et il s'est occupé de nous, oui ou non, depuis lors. Parfois, nous avions eu l'impression qu'il n'est pas toujours, il n'était pas toujours proche de nous comme nous aurons bien voulu l'avoir. Mais malgré tout, il était proche, plus que nous l'ayons invoqué. Je viens à la fin. Tu vivras. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par des milliers comme les herbes des champs. Et tu pries de l'accroissement, tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Vous pouvez continuer à les tests, etc. À partir du verset 8, je passais près de toi. Verset 8. D'abord, un premier passage. D'abord, premièrement, nu, la fin du verset 7. Et ensuite, la fin du verset, ensuite, verset 8, un deuxième passage. Je passais près de toi et je regardais. Et voici ton temps était là. Le temps des amours. Quelque chose de merveilleux, de très merveilleux. Le Seigneur est venu, est passé une fois. Il nous a vus sans secours, agités, baignés dans notre sang. Il nous a sauvés, il nous a aidés. Il nous a accordé la vie. Et ensuite, au temps où nous sommes grands, ici sont des exemples terrestres qui sont utilisés, où la croissance, où il y a la croissance, tu grandis. Et dans ta beauté parfaite, et dans le temps de l'amour, il vient pour que ceux qu'il a appelé, qu'il a fait naître en tant que nouveau-né et qu'il a éduqué, qui ont grandi, qui ont atteint leur âge adulte, alors il vient pour la deuxième fois au temps des amours. Alléluia. Mais bien-aimés, vous pouvez maintenant pas continuer. Nous ne pouvons pas continuer à entrer dans ces détails de ce sujet. Il y a plusieurs étapes que le Seigneur, avec les siens, a. Dieu nous a aimés. Il l'a appelé les siens à sortir par amour. Et quand le temps des amours, de l'amour divin est là pour l'Église, alors il y a entre l'épouse et l'époux, une relation très intime. Vous savez ce que le Seigneur veut dire par là? Il nous confie des choses. Il parle à notre cœur comme on parle, comme on ne peut pas parler avec des bébés et des petits-enfants et des enfants. Il a une confiance en nous. Nous avons atteint un âge où il peut nous confier des choses. Le temps des amours est là. Qu'est-ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte? Le Saint-Esprit a été répandu. Et il est écrit dans Romains, quand l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Au temps de l'amour, au temps des amours. Donc, en tant que deuxième expérience avec Dieu, d'abord, la nouvelle naissance, le salut par la foi en Jésus-Christ. Notre âme est sauvée et ensuite, nous grandissons. Et là, dans les temps de l'amour, l'amour de Dieu par le Saint-Esprit est déversé ensuite dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et nous pouvons être placés dans cette communion ou bien alors dans l'Église à la place où Dieu veut nous avoir et nous utiliser. Regardez ce qui est écrit sur verset 8. « J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité. » Vous connaissez l'histoire de Ruth et de Boaz. Ruth était à ses pieds. Il était le rédempteur. Pas le rédempteur, il avait le droit de rachat. Il avait le droit de rachat. Et il a étendu sur elle le pan de sa robe. Et ici, le Seigneur parle de l'Église. Du troupeau racheté par le sang. D'abord, elle était agitée là, baignée dans son sang. Et ensuite, il a retrouvé nu. Le dernier âge de l'Église, Laodicée. Je te dis que tu es nu. Et c'est dans ce temps que le Seigneur revient. Encore une fois, que le Seigneur repasse, encore une fois, pour se révéler à son peuple. Mais bien aimé, le temps est passé, mais Dieu n'est pas fini avec nous. Au temps des amours, le Seigneur se révèle encore une fois. Et nous reconnaissons que nous sommes tombés du premier amour et des premières œuvres. Et nous reconnaissons qu'il veut nous ramener au premier amour et aux premières œuvres. Tout cela sont des réalités divines. Nous allons voir lors de la deuxième fois quand il passe, il nous reconnaîtra comme Joseph et le peuple d'Israël autrefois. Oh, nous allons le reconnaître dans la puissance de sa résurrection. Et puissamment, il se manifestera en ceux, il se prouvera en ceux qui, avec un cœur indivisible, lui font confiance. Amen. Fin de la transmission.